Bonsoir, il est 20h, vous êtes bien sur Radio Lodève et c'est Du bruit dans les feuilles. C'est Tanguy au micro et aujourd'hui avec moi dans le studio, il y a Anna.
Salut.
Et il y a Raphaël.
Bonsoir.
Alors, on tient à vous prévenir tout de suite, on n'est pas des professionnels de la radio et là en plus on est complètement pris par la préparation de notre petite fête de l'arbre. Qui a lieu dans moins de 10 jours sur notre territoire et on prépare cette petite fête et du coup ça nous a pris du temps et on n'a pas beaucoup préparé cette émission, du coup on est un petit peu dans l'impro total, vous nous excuserez d'avance. Alors j'ai Raphaël qui me fait des grimaces
non,
en disant mais si
on...
Mais on a beaucoup de choses à vous faire partager quand même.
Voilà, on a un peu préparé mais très très vite et du coup on commence tout de suite.
Voilà, on commence tout de suite par la petite annonce, la cloche que vous connaissez. L'annonce de la chronique L'Arbre du Mois. Et c'est Tanguy qui nous parle de son arbre choisi du mois de février.
Ok, c'est moi qui m'y colle. Et du coup, comme on est au mois de février et qu'on va pouvoir commencer à greffer, je me suis dit, je vais vous présenter aujourd'hui un porte-greffe qui est vraiment classique sur nos terrains. C'est le cerisier de Sainte-Lucie.
C'est quoi un porte-greffe ?
Un porte-greffe, vous savez, c'est ces arbres qui poussent spontanément dans la nature et qu'on peut greffer avec des fruits domestiqués. Du coup, le Sainte-Lucie, par exemple, il donne un petit fruit insipide qui est apprécié que par les oiseaux, ce qui est pas rien. Hein. Mais une fois qu'on a amené un petit greffon dessus, un petit bout qu'on a pris sur un cerisier qui nous plaît bien et qu'on peut manger, on peut transformer ces Sainte-Lucie qui sont partout dans la garrigue en cerisier plus intéressant pour nos petits palais. Voilà, du coup, le cerisier de Sainte-Lucie, c'est un joli petit nom. Il a aussi un nom arabe que les botanistes ont retenu. On l'appelle Prunus Mahaleb. Moi, j'aime bien Mahaleb, ça sonne bien en bouche. Je ne sais pas du tout ce que ça veut dire. S'il y a des auditeurs arbophones, je veux bien avoir l'info. Mahaleb, qu'est-ce que ça veut dire? Mais j'aime bien le nom. Et du coup, ce petit cerisier, il a l'air de rien. Les gens le prennent souvent pour un prunier, et d'ailleurs il fait partie du genre prunus. Néanmoins, c'est un cerisier. Il fait des toutes petites cerises qui sont absolument immangeables, il y a très peu de chair dessus, et c'est très amer. Voilà, et il est partout ce cerisier, c'est un cerisier qui s'adapte bien sur tous les sols calcaires, même sur la garrigue, sur le caillou des fois on le voit pousser dans des infractuosités de rochers. Voilà, c'est un arbre qu'on peut greffer donc à peu près avec tous les cerisiers domestiques. Alors je consulte en même temps ma petite Bible, le livre des arbres de Lyotagui, et il nous apprend pas grand chose finalement sur le Mahaleb, il n'a pas beaucoup développé. Il dit quand même que les fruits ont une saveur désagréable mais peuvent être mangés, et qu'avant on le distillait et qu'on faisait un petit kirsch avec. Voilà, il dit aussi que l'amande du noyau contient de l'acide cyanhydrique. Vous savez que souvent les noyaux contiennent de l'acide cyanhydrique. C'est en fait finalement une stratégie végétale des arbres pour éviter que leurs graines, leurs petits bébés, soient mangés par les oiseaux ou les autres animaux. Du coup, bien souvent, les pépins et les noyaux contiennent de l'acide cyanhydrique. C'est une stratégie donc de l'arbre pour éviter que sa descendance soit croquée finalement. Parce que quand vous croquez dans ces noyaux, vous avez tout de suite ce goût très très fort d'amande amère. C'est toxique, hein, l'acide cyanhydrique, ça, on en a fait du cyanure. Et on voit bien là qu'il y a une vraie stratégie des végétaux pour éviter d'être mangés et que juste le fruit et la pulpe qui entoure ce noyau sert à attirer les animaux et va permettre la dissémination des graines. Et puis ben, cet acide cyanhydrique va éviter que la graine soit dévorée. Voilà, ils sont malins quand même, hein, ces arbres. Ils ont mis en point des stratégies super avancées pour travailler avec nous, quoi.
Et pourquoi il faut le greffer en ce moment, ce Sainte-Lucie? Pourquoi pas un mois avant ou deux mois après?
Eh ben, la greffe, c'est facile, mais elle demande vachement de s'installer finalement dans le calendrier de l'arbre. Et du coup, ben, les greffes de printemps, on les fait 15 jours, 3 semaines avant le réveil de végétation. Le cerisier Mahaleb, il va se réveiller d'ici 3 semaines à peu près. Et du coup, c'est le bon moment pour venir installer le greffon sur le porte-greffe. Ça va permettre que la soudure se fasse avant le départ de végétation. On en parlera plus tard. L'association organise souvent des petites journées de formation et d'initiation à la greffe. Il y en a une qui va venir bientôt. C'est le 5 mars, il y a une journée, un dimanche, où vous pourrez venir avec nous greffer des cerisiers de Sainte-Lucie. Voilà, parce qu'on ne va pas détailler la radio, ça serait un petit peu lourd. Mais voilà, la greffe, c'est facile et ça fait partie un peu du cœur de nos activités, la greffe sur fruitiers sauvages. Du coup, je vous invite à nous rejoindre si vous voulez en savoir plus sur la greffe végétale, de venir faire des stages avec nous.
C'est un type de greffe spéciale quand même pour le Sainte-Lucie ?
Non, c'est une greffe très classique qui était très pratiquée par les paysans autrefois. C'est la greffe en fente. C'est une greffe très connue, voilà, qui était très pratiquée. anciennement. À savoir aussi que le cerisier de Sainte-Lucie, son bois, avait une particularité, c'est qu'il a une odeur assez douce et il a été utilisé pendant longtemps par les gens qui fabriquaient des pipes. Et du coup, c'est un usage qui est encore présent aujourd'hui. On fabrique des pipes qui sont dites en merisier, mais qui sont faites finalement avec le bois du Sainte-Lucie. Parce que les fumeurs de pipes, alors c'est plus du tout d'actualité, hein, fumer n'est plus du tout à la mode. Néanmoins, les fumeurs de pipes disent que le bois de Sainte-Lucie dans lequel se consumait leur tabac donnait un petit goût supplémentaire. Et du coup, elle est très appréciée, la pipe en bois de Sainte-Lucie. Et elle est encore fabriquée aujourd'hui. Et je crois même que c'est Lyotagui qui dit ça, que dans l'est de l'Allemagne, il y a des plantations de Sainte-Lucie qui sont faites juste pour fabriquer des pipes. Voilà, donc je vous invite à regarder ce cerisier Mahaleb. Vraiment, vous le trouverez partout. Il ressemble à quoi ? Il ressemble beaucoup au prunier. Il a des petites feuilles rondes, à peine dentelées. Et de loin, vraiment, on dirait un prunier. Mais après, quand on regarde attentivement le bois, il y a des petites lignes horizontales qui font un peu penser au cerisier. Et il y a des petits signes qui peuvent nous mettre sur la voie du cerisier. Voilà, c'était l'arbre, du moins, c'était le Prunus Mahaleb.
Merci Tanguy. Et on continue avec le dicton du mois. Alors, on en a deux, et dont un que je viens un petit peu d'inventer parce que... Ça va avec la petite chronique de plus tard. Le premier que je vous propose, vu qu'il a bien plu en début du mois et à la fin du mois de janvier, c'est « Pluie en février, du grain plein le grenier ». Et il paraît que c'est vrai. Donc on va pouvoir peut-être attendre une moisson bien généreuse en juillet-août dans le coin. Et vous avez des commentaires à faire peut-être ? Ça vous évoque quelque chose ?
C'est rare, non, la pluie en février ?
C'est rare, hein, ouais.
Voilà, on est d'accord.
En même temps, là, on est au cœur du sujet. Il y a beaucoup d'eau ces temps-ci. Et on va pouvoir, du coup, un petit peu apprécier la véracité de ce dicton dans les mois qui viennent. Moi, je n'ai pas trop d'avis sur la question. Je pense qu'effectivement, de toute façon, c'est-à-dire que la pluie, il y en a. C'est maintenant ou jamais, quoi. Hein. Après, on va aller vers le sec et que ce printemps se prépare avec les eaux qui nous tombent en ce moment sur la figure.
Parce qu'en général, ici, il pleut plus souvent en mars-avril, non ? Et février, c'est généralement sec. Donc j'imagine que... Enfin, on se donne rendez-vous dans 6 mois. On verra si ça a marché.
Et tu parlais d'un deuxième dicton ?
Et le deuxième, je viens un petit peu de l'inventer. Parce que, donc, en février, la charrue ne quitte pas l'arrêt. Et ça, c'est tout à fait vrai. Parce que, bon, pour ceux qui labourent et qui travaillent notamment la vigne, ils savent que c'est le moment à commencer. Bon, on est bien dans la taille, mais on commence à labourer. Et ceux qui travaillent avec les chevaux, ils sont maintenant en train de s'agiter. On verra ça aussi la prochaine fois, à la prochaine émission. On va faire un petit aparté sur ce sujet. Et on y reviendra tout à l'heure avec la chronique.
Oui, voilà, on reviendra sur cette thématique du labour après une première chanson de Graham Allwright qui s'appelle « Au cœur de l'arbre ».
Au cœur de l'arbre, il y a le fruit. Au cœur du fruit, il y a la graine. Au cœur des graines, il y a la vie et la saison prochaine. Au cœur de l'homme, il y a l'amour. Au cœur de l'amour, il y a la peine. Au cœur des peines, il y a le jour que le matin ramène. au cœur de l'arbre, il y a le poids. Au cœur du poids, il y a la planche, et de deux planches en fait la croix. Qui tient Dieu dans ses branches? Au cœur de l'ombre, il y a la nuit. Au cœur des nuits, c'est en absence si je m'endors. Ta lampe, lui, tu es dans le silence.
Allez, on se réveille, et on passe à la chronique. Qu'est-ce qu'il se passe ce mois-ci au verger, à la vigne ?
Du coup, je propose, donc ce qui se passe en ce moment à la vigne, c'est le labour, et je vous propose une entrée en matière un peu littéraire avec Jean Giono et un classique que vous connaissez peut-être bien. Du XXe siècle, un bon classique qui s'appelle « Que ma joie demeure ». Et tout au début de l'ouvrage, il s'agit de « La bourre au cheval ». Je vais faire de mon mieux pour bien réciter. Oui, Tanguy ?
Non, je voulais juste inviter les gens à redécouvrir Jean Giono, parce que souvent, c'est un truc qu'on nous a mis dans la tête à l'école, il fallait le lire, on n'avait pas très envie. Si vous vous intéressez à l'environnement et à la nature d'une manière générale, il a une façon de parler de ce qui nous entoure et de l'environnement qui est très touchante. Mmh. Moi, j'aime beaucoup Jean Giono et je l'ai redécouvert et j'invite vraiment tout le monde à une relecture de Jean Giono. L'extrait que va nous lire Anna, là, c'est « Que ma joie demeure ». C'est un livre qui est vraiment touchant. Je dis souvent touchant, mais parce qu'on parle des choses qui nous tiennent à cœur dans cette émission. Et Giono, à redécouvrir vraiment. Merci Anna.
Jourdan pensa qu'il était temps de se servir du Brabant neuf. La charrue avait encore les muscles tout bleus de la dernière foire. Elle sentait le magasin du marchand, mais elle avait l'air volonteuse. C'était l'occasion ou jamais. Le cheval s'était réveillé. Il était venu jusque près de la porte pour le regarder. Il y a sur terre de beaux moments bien tranquilles. Si vraiment je l'attends parce qu'il doit venir, se dit Jourdan, il arrivera par la nuit comme celle-là. Il avait enfoncé le tranchant du coutre au commencement du champ, en tournant le dos à la ferme de Fra Joséphine et en direction de la forêt Grémone. Il aimait mieux labourer dans ce sens parce qu'il recevait en plein nez l'odeur des arbres. C'est le cheval qui, de lui-même, s'était placé de ce côté. Il y avait tant de lumière qu'on voyait le monde dans sa vraie vérité, non plus décharné de jour, mais engraissé d'ombre et d'une couleur bien plus fine. L'œil s'en réjouissait. L'apparence des choses n'avait plus de cruauté, mais tout racontait une histoire, tout parlait doucement au sens. La forêt là-bas était couchée dans le tiède des combes comme une grosse pintade aux plumes luisantes.
Merci. Et c'est super. Et je voulais juste parler de tout ça, c'est-à-dire qu'on parle souvent du verger et de la vigne, et c'est intéressant de pourquoi est-ce qu'on ne laisse pas pousser finalement la prairie dans la vigne ou dans les vergers. Alors ça dépend, hein. c'est pas le cas dans... les vergers dits industriels, ils sont tous... avec de la terre nue. Aujourd'hui, on revient vachement même dans la vigne à finalement de l'enherbement, mais c'est un enherbement sélectionné. Parce qu'il y a quand même, il faut savoir que, moi j'en parle aussi quand on parle de plantation d'arbres, il y a une vraie concurrence entre les herbacées et puis les arbres et la vigne. Et du coup, c'est pour ça qu'il y a des travaux souvent l'hiver où on va essayer d'éclaircir le couvert végétal ou bien de le transformer, voire de faire des semis. Et Anna, tu travailles beaucoup dans la vigne avec le cheval, justement. C'est pour ça que tu nous as choisi cet extrait. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de pourquoi les vignerons, que je salue, qui sont en pleine taille aujourd'hui et qui quittent rarement le champ avant la nuit, pourquoi ce travail systématique de l'entre-rang ?
Oui, il y a beaucoup d'écoles, mais on dit que voilà, la vigne est une plante, une culture pérenne, et on a besoin de la travailler donc pour éliminer la concurrence ou pour diminuer la concurrence. Donc il y a beaucoup de choses qui se font par rapport à l'enherbement dirigé, tout à fait, mais on essaye, ce qu'on dit traditionnellement, c'est que la vigne, elle expire, elle respire, elle inspire, elle expire. Donc on va ouvrir la terre avec un labour complet qu'on appelle communément le labour en planche. Donc on va travailler avec 5 passages sur le rang, qu'on appelle aussi l'ample, donc l'allée. Au milieu, on va ouvrir la terre, on va la dégager, buter, on dit aussi, ou chausser vers les souches. Et au printemps, donc au milieu, on va mettre du fumier, on va mettre un apport, qui des fois est mélangé avec du marc de raisin, enfin ça dépend. Et ensuite, donc ça c'est le moment où la vigne elle s'ouvre, la terre elle s'ouvre, elle respire, elle inspire en hiver, elle expire au printemps, la terre elle expire, et c'est à ce moment-là qu'on va refermer, en fait. Et ça, c'est un petit peu, on va dire, la façon traditionnelle de voir les choses. Mais il y a beaucoup, beaucoup de choses qui se font aussi dans le non-labour. C'est tout à fait... On aura l'occasion peut-être d'en parler, parce qu'il y a beaucoup d'écoles. Il y a beaucoup de choses aussi qui se font avec de l'enherbement aplati, avec des rouleaux. Tout ça, ça peut se faire même au cheval. Mais la prochaine fois, on aura un petit son de quelqu'un, un prestataire de service qui travaille avec des chevaux depuis presque 15 ans et qui va nous en parler un peu mieux de son travail.
C'est marrant quand tu parles de ce travail-là, c'est vachement sensoriel, je trouve. Et dans la ouais. description de Giono aussi, c'est vraiment c'est beaucoup très sensoriel. J'aime bien le passage où il parle de l'ombre, la douceur de l'ombre. Mm. C'est vrai qu'en hiver, l'ombre, on l'apprécie plus ou moins, mais j'aime bien la manière de voir ça comme une douceur.
Et puis parler aujourd'hui où on parle beaucoup d'environnement et où les produits phytosanitaires sont un petit peu remis en cause. Le glyphosate, on a une rémanence, vous voyez, glyphosate, Roundup, tout ça, ça a été à la mode ces dernières années. Puis finalement, on se rend compte qu'il y a des impacts environnementaux qui sont terribles. Et du coup, au jour d'aujourd'hui, c'est une vraie question pour les professionnels de l'agriculture, à savoir quelles sont les techniques qu'on peut utiliser pour à la fois diminuer la concurrence herbacée et puis en même temps de pas avoir un impact délétère sur l'environnement. Et du coup, je pense que le travail à cheval revient un petit peu à la mode et c'est bien. Hein, je trouve ça chouette, moi. Et bon, après, ça interroge beaucoup la valeur, le coût, tout ça, c'est des thématiques qui sont complexes. Mais néanmoins, il y a des pistes de ce côté-là.
Et c'est la chronique Chasseur de sons avec Raphaël qui nous a apporté un son trouvé dans le Lot des Voix cette semaine.
Exactement. C'est un son que j'ai fait avec Marie-Émilie Lacroix. Qui est une femme qui vient du Québec, qui est issue d'une Première Nation qui s'appelle la Première Nation Innu. Et donc c'est Pierrette, une habitante du Lot-des-Voix, qui va régulièrement au Québec et qui a invité son amie, donc Marie-Émilie. Donc j'ai rencontré Marie-Émilie, elle nous a parlé de la forêt, des traditions de son peuple. On a beaucoup parlé, on a parlé 1h30 et donc on vous a extrait 5 petites minutes. On en discute après.
Les Innus, c'est un français, c'est montagnais, parce qu'on vivait... Mais moi, je trouve ça drôle, ce nom-là, montagnais, parce que dans le fond, dans le lac Saint-Jean, il n'y a pas de montagne. Mm. C'est, quand je regarde ici, oui, c'est des montagnes. La statue là, de la Vierge, ça, c'est une montagne. Mais tu n'as pas ça au lac Saint-Jean, là. Tu as des collines. Mais je ne sais pas pourquoi, ils nous ont appelés montagnais. Puis, mais dans le fond, toutes les langues chez nous, ça veut tout dire la même chose. Hein. Innu, Cri, Anishinaabe, ça veut dire le vrai homme, habitant de la terre. Alors, oui, à partir de ça, c'est sûr qu'on a toujours vécu dans la forêt, depuis le début de l'existence des humains. Hein. On a toujours vécu dans la forêt, mais la forêt, c'était un sanctuaire, c'était une maison, c'était l'endroit où cherchait toute ta nourriture. Parce qu'on vivait de chasse, de pêche, les vêtements étaient faits de peau, les outils, les bijoux, tout servait à partir de tout ce qu'il y avait dans la nature. Hein. Puis le bois, bien évidemment, le bois, c'était notre protection, parce qu'il fait chaud, il fait froid, le bois est toujours une source. Bien tu le coupes puis tu chauffes ton tipi, ou bien l'ombre l'été, il y a beaucoup de nourriture qu'on trouve dans la forêt, on peut manger pas mal. Plein de choses dans la forêt. Puis ensuite, c'est aussi une pharmacie. Mm-hmm. Parce que, tu sais, j'ai à l'exemple des maladies... quand je pense à Jacques-Cartier, parce que je suis en France, je suppose. Quand il est arrivé, il y avait le scorbut durant l'hiver. Hein. Mais c'est l'écorce de bouleau. Hein, c'est l'écorce de bouleau qui s'est sauvé. Les Autochtones savaient. Mais les Autochtones savaient d'instinct. Puis souvent, on dit aussi que l'ours, c'est notre enseignant. Parce que si tu observes l'ours, il va manger les choses qui sont pas dangereuses, mais les choses qui sont poison, il va les laisser là. Hein. Puis quand il est malade, il va se soigner aussi. Il y a d'autres exemples que j'aime beaucoup me servir, c'est le chevreuil. Le chevreuil qui se casse une patte, ben il va s'en aller au bord d'un lac où il y a de l'argile. Il va rentrer la patte dans l'argile.
Non, hein?
Il va se coucher, puis il va attendre. Il va se rincer la patte dans l'eau, puis dans l'argile. Il va se recoucher, il va attendre. Puis quelques jours, 5 jours peut-être après, sa patte est en pleine forme, puis il repart.
C'est vrai?
Yes, c'est absolument vrai. C'est pour ça que j'ai appris, moi, à soigner les gens avec ces choses-là. On fait la même chose avec les humains, là. Exactement la même chose. La philosophie des Autochtones, c'est observe, écoute, agis. Et j'aime beaucoup répandre cette philosophie-là un peu partout où je passe, parce qu'elle s'applique partout. Tu rencontres quelqu'un sur la rue ou dans une conférence ou peu importe, tu l'observes, tu l'écoutes, puis ensuite tu vois de quelle façon tu peux agir avec lui.
Mm-hmm.
Jusqu'où tu peux aller dans sa relation, qu'est-ce qu'il t'a à apprendre. Il peut t'apprendre des choses positives comme des choses négatives que tu vas mettre de côté parce que c'est pas bon pour toi, mais il t'a appris quelque chose pareil.
Mm-hmm.
Il t'a appris à être comme lui ou à ne pas être comme lui. Il t'a appris à développer quelque chose qu'il t'a enseigné ou à laisser tomber. Là. Mais la forêt sert aussi pour construire les maisons.
Mm-hmm.
Parce que quand on était des peuples nomades, ben, on coupait les arbres pour construire les tipis. Si on restait un certain temps, sinon on ne coupait pas d'arbres. Et l'hiver, il y avait certaines nations qui construisaient les maisons longues.
Mm-hmm.
Les maisons longues, on vivait à 3 familles là-dedans.
Est-ce que la forêt, c'est quelque chose qui est particulièrement honoré?
Quand on fait des cérémonies dans la maison longue, on en fait encore aujourd'hui en 2017, des cérémonies dans la maison longue, ben, on fait toujours... on appelle ça une prière, là, une prière de remerciement. Mais quand dans cette prière-là, tu as une pensée spéciale pour tout ce qui existe, parce que tu nommes les arbres. Il y a la fête de l'érable au printemps. Il y a la cérémonie de l'érable, parce qu'on prend de l'eau de l'érable, puis on fait une fête autour de l'eau de l'érable, parce que c'est l'eau qui a porté la vie. Puis quand on vivait dans le bois, c'est sûr qu'elle servait beaucoup. Puis on parle aussi justement des canaux, des arbres qui ont servi à faire des canaux puis à faire des maisons. Mais il y a très longtemps, je me souviens, moi, les Inuits, on partait du lac Saint-Jean, puis on descendait à Québec, avant que les gens de l'Europe arrivent. On allait chercher à Québec un boulot qu'il y avait juste dans cette région, dans la ville de Québec. Puis on le ramassait à l'automne, on le montait au lac Saint-Jean. Ben, en kilomètres, c'est quoi? C'est un bon 300 kilomètres dans ce temps-là. Hein? Puis, il fallait aller à Québec chercher l'écorce parce que c'était vraiment une écorce exceptionnelle. On construisait les canaux en écorce.
Et donc, le boulot, il a plein de propriétés?
Oui, si t'es mal pris en forêt et tu peux te nourrir avec le boulot, t'enlèves l'écorce.
Mm.
Puis à l'intérieur, il y a un film transparent, là, comme une petite peau très, très mince. Là. Puis c'est juste des protéines. Puis c'est ça, mais tu peux faire des tisanes aussi quand t'es malade hein, dans la forêt. Dans la forêt, tu peux... T'as tout ce qu'il te faut, vraiment tout. T'as la pharmacie puis t'as l'épicerie. À la fois.
Et voilà, c'était Marie-Émilie. Un peu d'exotisme en l'eau des voix. Hein, ça, on n'est pas habitué à entendre le Québécois par ici. Et nous, on a bien aimé... Moi, j'aime bien entendre ça parce que c'est vrai qu'il y a vachement de choses qui parlent du lien et de l'interdépendance, finalement, entre un peuple et son environnement. Et c'est des thématiques qui nous sont chères. Et du coup, ça me permet aussi d'introduire un petit peu le débat inaugural de notre petite fête de l'arbre qui va un petit peu sur les... On va être aussi dans l'exotique, dans le sens où on présente un film qui s'appelle « L'étreinte du serpent » qui a quelques années, d'un réalisateur. Alors, je vais sûrement écorcher son nom, qui s'appelle... Ciro Guerra, c'est un film de 2005 et la discussion qui va suivre, on va essayer d'explorer aussi ces thématiques-là entre la nature et la culture, notre position.
C'est vrai que quand on va au Canada, le témoignage des Premières Nations vraiment traduit un rapport différent à la nature. Et en fait, moi, quand je suis allée au Canada, je me suis dit « Oh là là, les Canadiens, ils sont tous fous dingues de nature, etc. » Et puis après, j'ai découvert que En fait, ils avaient une manière d'exploiter la forêt qui était tout sauf respectueuse, on va dire. Le Canada, c'est un des premiers producteurs de pâte à papier et de bois. Donc, ils ont une industrie, une industrie forestière qui est énorme. Ils ont la moitié de leur territoire qui est couvert par la forêt. Et en fait, ils ont une, enfin c'est de l'exploitation vraiment industrielle. Donc c'est des coupes rases, des de la replantation. C'est des milliers d'hectares. Donc petite française qui allait me balader au Canada, j'avais un peu la vision idyllique du haut, c'est le paradis sur terre, la forêt et tout. Et en fait, pas du tout. 90-95% du territoire forestier est en fait propriété publique. Ça vient de la colonisation, enfin, je pense, c'est comme ça que je le comprends, moi. Ça vient de la colonisation où, en gros, toutes ces terres-là, on les a prises aux Premières Nations, et donc on les a, enfin, c'est les gouvernements provinciaux et fédéraux qui se les sont mis dans la poche. Et actuellement, du coup, ils les donnent en exploitation via des concessions de très longue durée à des gigantesques multinationales qui ravagent donc ces territoires. Et en fait, quand on se promène dans le Canada, on voit pas vraiment, parce qu'ils sont assez intelligents le long des routes. Ils laissent une bande de 200 mètres de large, ils laissent les arbres. Et du coup, tu vois pas vraiment les gigantesques coupes à blanc. Bon, voilà, il y a eu un film qui est sorti il y a pas tant de temps que ça, il y a un bout maintenant, comme ils disent. Je sais plus, je crois que c'était dans les années 2000, l'erreur boréale. Tu vois...
Tout à fait. Je voudrais... Oui, c'est vrai qu'il y a pas mal de pratiques forestières qui sont abusives, comme toute pratique industrielle peut contenir des dérives. C'est vrai que c'est pas... Je voudrais juste dire que c'est pas réservé au Canada. Ça se pratique également ici. On aura peut-être l'occasion aussi d'en parler à la petite fête de l'arbre, de tout ça, parce qu'on aura des associations qui travaille notamment sur les pratiques forestières de gestion douce, et on aura tout un panel d'associations qui en parleront très bien. Ce qui fait notre petite transition
avec le programme de
la petite fête de l'arbre.
Et oui, la petite fête de l'arbre, on est au cœur du sujet parce qu'on est en plein préparatif, et donc on va vous rappeler les dates. On vous l'a déjà dit le mois dernier, la petite fête de l'arbre, c'est le dernier week-end de février, et c'est un peu notre événement phare de l'année. On fait venir du monde un peu de l'extérieur pour parler du territoire et pour parler de nos amis à feuilles, les arbres. Du coup, ça commence le vendredi soir, je vous en ai parlé par cette projection, c'est au cinéma Luteva.
Vendredi 24.
Le vendredi 24 février, merci Raphaël. Et on continue, ensuite ça continue tout le week-end, et il y a des propositions tout le long. Alors, je vous invite à aller découvrir le programme, il est en ligne sur notre blog. Le blog de Paysarbres, les moteurs de recherche nous connaissent bien, c'est pas très difficile à trouver. Vous aurez le programme détaillé. Toujours pour vous dire que le samedi, pour faire bref, l'après-midi à la salle du Triomphe, vous allez retrouver toutes les associations du coin et d'un peu plus loin qui causent de l'arbre ou qui travaillent sur l'environnement plus largement. Je vais pas toutes les citer. Il y a aussi des propositions de promenades. Il y en aura deux le samedi et deux le dimanche. Voilà, que dire de plus ? La grande conférence... Ah pardon Raphaël, tu voulais rajouter quelque chose ?
Je voulais dire que le forum des associations, on en a parlé hier dans la réunion de préparation Petite Fête de l'Arbre, le forum des associations, en fait, on a voulu donner une place à différents points de vue justement sur l'arbre et la forêt, la gestion forestière. Voilà, c'est un panel de points de vue sur cette thématique. On n'a pas de parti pris particulier, sauf celui d'amener la discussion et d'amener des débats contradictoires.
Et oui, parce qu'on a bien conscience que la forêt, c'est une ressource. Et finalement, on n'est pas du tout en train de dire qu'il ne faut pas y toucher et qu'on vit dans une nature vierge avec laquelle il ne faut pas du tout interagir. Donc on peut poser des questions sur les méthodes et les techniques, et donc ça sera l'occasion, effectivement, ce forum des associations, de parler de tout ça et d'apporter différents points de vue sur l'exploitation de la forêt, par exemple, et d'autres thématiques. À noter quand même que dans l'après-midi, il y a une petite discussion-rencontre d'auteurs, c'est-à-dire des gens qui ont sorti l'année dernière des livres dont l'arbre est central dans le propos. Il y aura Bruno Sirven, qui est référent un peu du réseau rural agroforestier et qui est l'auteur d'un livre qui s'appelle « Le génie de l'arbre ». Il y aura Maurice Chaudière, s'il arrive à venir jusqu'ici parce qu'il est très fatigué, ce monsieur, il approche des 90 ans. Il a écrit un livre qui s'appelle « Les arbres dont je suis fait ». Et puis, il y aura également Ernst Zurcher, qui est suisse, qui est professeur, qui est ingénieur forestier, et qui sera aussi notre conférencier plus tard. Il a écrit un livre l'année dernière qui s'appelle « Les arbres entre visibles et invisibles ». À noter que ces trois livres sont publiés chez Actes Sud. Voilà, donc ça, c'est une petite table ronde où ils pourront, on pourra leur poser des questions.
Et le public présent sera vraiment invité à interagir. Hein. On va essayer de faire en sorte que ce ne soit pas une discussion de super spécialistes.
Non, bien au contraire. Hein. C'est, l'idée, c'est ça, c'est d'amener ce sujet de l'arbre de manière à la portée de tous et puis de leur poser des questions qui seront les questions du public. Voilà, un petit moment d'échange suivi d'une petite dédicace de leurs ouvrages pour ceux qui veulent les emporter.
Et le soir, donc, ce sera la conférence de Ernst Zurcher.
Et donc, Ernst Zurcher fait une conférence à 20h30, toujours à la salle du Triomphe, suivie d'un petit concert. Je vous invite vraiment à nous rejoindre pour cet événement qu'on espère joyeux, festif, intelligent. Moquez-vous.
On continue avec le dimanche. On aura une petite visite du chemin fruitier de Pays-Arbres de notre association animée par Tanguy ici présent, le matin à 11h. Et également un atelier d'écriture avec une nouvelle adhérente de l'association Gabriel. Qui s'appelle Gabrielle. Ensuite, un petit atelier taille. Alors, on va intégrer un petit atelier comme on fait dans l'année, un petit atelier taille et santé des arbres animé par Yannick. De Pays-Arbres, conjointement avec Plume du jardin partagé Terre en Partage. Et ça se fait donc au Jardin Partagé, alors que les deux autres rendez-vous, c'est à la Salle du Triomphe. Vraiment, la Salle du Triomphe, c'est notre QG de la fête de l'arbre. Hein, voilà, si vous ne savez pas où aller, c'est là qu'il faut se retrouver. Et ensuite, on continue avec un petit repas partagé, à la Bonne Franquette, toujours à la Salle du Triomphe.
Chacun amène de quoi boire et manger et on partage.
L'après-midi, on aura le gros événement de l'après-midi du dimanche, c'est notre dégustation rencontre avec des vignerons. Vignerons qui n'ont pas peur des arbres, c'est-à-dire qu'on va causer d'agroforesterie, on va causer de complantation, on met des arbres dans les vignes, mais où et comment on fait? Et tous ceux des vignerons parmi vous qui écoutez, venez nous rejoindre si cette thématique vous interpelle. Et voilà, avec une petite dégustation.
Et voilà.
Ça, c'est l'après-midi avec, en même temps, une petite plantation citoyenne dans les bois avec Laurent, notre adhérent, notre forestier du CA de Pays-Arbres.
Ce sera sur l'Escandorgue.
À l'Escandorgue, voilà.
Oui, j'insiste un peu sur la rencontre vigneronne. Il y aura aussi de la dégustation, des vignerons qui nous feront goûter un petit peu des produits. Passé, c'est ouvert à tous, mais c'est vrai qu'on a quand même très envie que ce débat arrive jusqu'au champ, si je puis dire. Et du coup, si vous êtes professionnel, si vous êtes exploitant, que vous avez des vignes et que vous vous posez des questions, moi, je pense vraiment que par les temps qui courent, si je puis dire, avec ces problématiques climatiques et tout ça, l'arbre peut être une solution. Et on a vraiment envie d'amener ce débat-là et de faire ce retour d'expérience. Donc ça, c'est toute l'après-midi du dimanche, entre 14 et 18 heures. À noter aussi qu'il y aura l'occasion de faire un peu d'acrobranche pour les petits et pour les grands. Ça sera le samedi ou le dimanche, si jamais le temps ne permet pas l'une ou l'autre. C'est plutôt axé sur le samedi et c'est sur le grand cèdre. Pour ceux qui connaissent le Secours Populaire ou le CLAP, c'est la cour qui est au milieu. C'est un cèdre magnifique et ça sera possible d'aller au cœur de l'arbre. Voilà, c'était le programme de notre petite fête de l'arbre. C'est dimanche 24, 25 et 26. Dans le rappel également, je vous rappelle, j'en ai parlé en début d'émission, le petit stage de grève du 5 mars qui se tiendra dans la région de l'Odève. C'est-à-dire on partira sûrement de l'Odève. Après, ça se fait chez des gens qui habitent à Usclas du Bosque. Pour la route, on fera un covoiturage qui part de l'Odève. Ça, c'est le dimanche 5 mars. Pour les renseignements, pour nous contacter, il faut... vous avez le mieux, c'est Internet. Hein, je suis désolé pour...
Mais non, maintenant, on a un nouveau numéro de téléphone.
Ah, plusieurs moyens de nous joindre. Hein. Voilà. C'est alors à la fois le mail, paysarbre, donc comme ça s'écrit pays et arbre ensemble, au singulier, @mailou.org, mailou c'est mail2o.org, et ensuite on a un petit nouveau numéro de téléphone qui est le 06 01 02 75 70, et notre nouveau site en ligne c'est paysarbre.org.
Bravo.
Joli coup. Merci à tous de votre écoute bienveillante. Merci à Cédric qui nous a fait la technique. et merci Radio Lodève d'une manière générale d'accueillir la petite équipe de Pays Arbres. On vous remercie de votre écoute et on vous dit au mois prochain.
On termine avec une chanson de Buzy, ou Buzy, je ne sais pas comment on prononce exactement, qui nous chante « Quel est un arbre ? Je suis un arbre ».
C'est les arbres, la terre et l'animal. Mes racines, c'est de l'eau, la douceur du mistral qui renvoie mon écho. Mes racines, c'est la terre, mes souffrances d'univers, mes souffrances d'univers. Je suis un arbre, je suis un arbre. Qui pleure, trou dans la tête, trou dans le cœur. Je suis un arbre, je suis un arbre. Un arbre qui pleure, trou dans la tête, trou dans le cœur. Enfance de cerisier, les oiseaux déployés. J'ai vécu sur une branche mes années d'innocence. Je suis un arbre, je suis un arbre. Un arbre qui pleure, trou dans la tête, trou dans le cœur. Je suis un arbre, je suis un arbre. Un arbre qui pleure, trou dans la tête, trou dans le cœur. Nos racines, c'est de l'eau, la douceur du mistral qui renvoie nos échos. Je suis un arbre, je suis un arbre. Un arbre qui pleure, trou dans la tête, trou dans le cœur. Je suis un arbre, je suis un arbre. Un arbre qui pleure.